écoutez RFI, il est 16h à Paris, 14h en temps universel.
Marion Cazanov.
Au moins 18 morts dans des frappes attribuées à Israël en Syrie. Des sites militaires ont été visés. Ce matin, des voies importantes de ravitaillement du Hezbollah entre l'Iran et le Liban passent par la Syrie, régulièrement frappée par l'État hébreu. En Algérie, polémique après la publication des résultats de la présidentielle qui a vu la réélection d'Abdelmadjid Tebboune. Lui-même a partagé ses doutes sur des incohérences, notamment sur les chiffres de la participation. Michel Barnier poursuit ses consultations. Le nouveau Premier ministre français doit former un gouvernement scruté de près par le RN, le parti d'extrême droite qui est quant à lui rattrapé par une affaire au Parlement européen. Et puis toujours en France, le début d'un procès aujourd'hui contre des hauts gradés de l'armée soupçonnés de corruption et de favoritisme. Au moins 18 morts ce matin dans une frappe en Syrie, frappe attribuée à Israël. L'armée israélienne n'a pas commenté pour le moment. Des sites militaires ont été visés. Des civils feraient partie des victimes avec également une quarantaine de blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Précision à Beyrouth de notre correspondant Paul Khalife.
Des avions israéliens ont mené ce lundi 4 vagues de raids en moins de 3 heures contre des cibles dans la région de Mesyaf à Hama dans le centre et au large de la province de Banias sur la côte méditerranéenne. Une pluie de missiles air-sol a frappé un complexe de recherche scientifique à Mesyaf, où l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état d'une quinzaine de fortes explosions entendues à plusieurs kilomètres à la ronde. L'ONG, basée en Grande-Bretagne, affirme que plusieurs bâtiments et positions militaires dans ce complexe ont été détruits. L'Observatoire ajoute qu'une plateforme flottante au large de la ville de Banias a également été attaquée par des appareils israéliens. Des missiles intercepteurs de la défense aérienne syrienne se sont abattus sur des zones résidentielles en Syrie, indique l'ONG et des sources syriennes indépendantes. L'aviation israélienne a frappé le territoire syrien 65 fois depuis le début de l'année, faisant 190 morts dans les rangs de l'armée syrienne et de ses alliés. Les voies de ravitaillement en armes et en matériel entre l'Iran et le Liban pour le compte du Hezbollah passent par la Syrie, qui constitue la principale base arrière du parti chiite libanais. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Et aujourd'hui, l'Iran, allié de la Syrie, a condamné une attaque criminelle israélienne, selon ses mots. À Gaza, la guerre entre l'armée israélienne et le Hamas est entrée dans son 12e mois, il y a 2 jours. Les médiateurs espèrent pouvoir reprendre les négociations pour un nouvel accord de trêve. Les États-Unis, qui font partie des médiateurs, pourraient bientôt soumettre une proposition. S'ils parvenaient à faire valider un cessez-le-feu dans l'enclave, ce serait forcément bénéfique pour l'administration Biden et donc pour la candidate démocrate Kamala Harris. Kamala Harris. Aux États-Unis, en pleine révision, la démocrate affronte demain son rival Donald Trump dans un débat télévisé, le premier entre les deux et peut-être le dernier, moins de 2 mois avant l'élection. En Algérie, des incohérences dénoncées dans les résultats de la présidentielle. Le président Abdelmadjid Tebboune a été réélu hier avec près de 95% des voix, mais avec une abstention très forte. C'est justement sur l'affluence des électeurs que les autorités restent floues. D'ailleurs, Ouda Ibrahim, les 3 candidats, dont Abdelmadjid Tebboune, ont publié un communiqué commun dans lequel ils critiquent ces résultats provisoires.
Dans une démarche inédite, Marion, et lors d'un communiqué commun, les directeurs de campagne de 3 candidats à la fonction suprême en Algérie dénoncent, je cite, « des ambiguïtés, des imprécisions, des contradictions et des incohérences qui ont été relevées dans les chiffres lors des résultats provisoires ». Les 3 candidats ont mentionné aussi une erreur dans l'annonce des pourcentages pour chaque candidat. Ils indiquent que les procès-verbaux à leur disposition ne correspondent pas aux chiffres proclamés, à savoir 94% pour le président sortant, 3,1% pour le Parti islamiste modéré, MSP, 2,16% pour le Front des forces socialistes. Ce communiqué commun est publié alors que les chiffres de participation de l'ANI font eux-mêmes l'objet de polémiques, après avoir estimé samedi que plus de 48% des électeurs se sont déplacés aux urnes. L'ANI a annoncé hier que 5 600 000 personnes ont participé au scrutin. Le corps électoral comptant près de 24,5 millions d'électeurs, le taux de participation ne devrait pas dépasser 23%, mais l'autorité électorale algérienne ne s'est pas expliquée sur ces contradictions.
Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI. Et dans un contexte de tension entre Alger et Paris, hier, le président Emmanuel Macron a adressé ses plus vives félicitations à son homologue. On parlait des enjeux de la réélection d'Abdelmadjid Tebboune tout à l'heure dans RFI Midi avec l'avenir des relations entre la France et l'Algérie. C'était avec notre invité international Jacques Frémaux, historien, professeur émérite à la Sorbonne Université. Interview à retrouver et à réécouter sur notre site rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. En France, justement, Michel Barnier poursuit ses consultations pour nommer ses ministres. Le nouveau Premier ministre de droite, qui a été nommé jeudi, doit former un gouvernement tout en évitant la censure, menace brandie par certains partis, dont l'extrême droite, le Rassemblement national, qui continue de souffler le chaud et le froid sur cette nomination. Le RN, justement, épinglé dans le journal Libération aujourd'hui. Dans un article publié ce matin, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est mise en cause pour avoir participé à l'élaboration de faux documents sur son travail d'assistant parlementaire européen. Le principal intéressé a démenti dans la foulée. Bonjour Charlotte Turien-Tomaca.
Bonjour Marion.
Il dénonce une tentative de déstabilisation à l'approche d'un procès de plusieurs cadres du parti.
Oui, l'article est extrait du livre « Machine à gagner » sur la stratégie de conquête du pouvoir du RN du journaliste Tristan Berthelot. Alors selon l'auteur Jordan Bardella, qui a été durant quelques mois en 2015 assistant parlementaire de Jean-François Jalques, ex-eurodéputé RN, a participé a posteriori à l'élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner des tâches pour le compte de l'élu qu'il n'aurait pas réellement effectué. Les magistrats soupçonnent le parti d'extrême droite d'avoir mis en place un système de détournement des enveloppes allouées par l'Union européenne à chaque député pour rémunérer des assistants parlementaires. Des assistants qui auraient donc travaillé en réalité pour le FN, lui permettant de faire des économies importantes sur les salaires. Parmi les prévenus figurent notamment Marine Le Pen, Louis Alliot, aujourd'hui vice-président du RN, ou encore Julien Odoul, porte-parole du parti. Jordan Bardella, lui, n'avait pas été mis en cause par l'enquête. Et ce lundi, le Rassemblement national n'a évidemment pas tardé à réagir. Dans un communiqué, le parti d'extrême droite affirme que Jordan Bardella conteste formellement les accusations mensongères contenues dans cet article de Libération et assure que le président du RN n'a rien à se reprocher.
Une précision signée Charlotte Urien-Tomaca du service politique de RFI. On reste en France avec ce procès contre 8 militaires à Paris, dont plusieurs hauts gradés de l'armée, ainsi qu'un sous-traitant, ICS, une entreprise de logistique. Leur procès a débuté cet après-midi. Tous sont soupçonnés de corruption et de favoritisme, notamment d'avoir, dans les années 2010, surfacturé plusieurs marchés de logistique. Franck Alexandre, cela concerne notamment le transport aérien pour des opérations extérieures de l'armée française.
Et parmi les prévenus, l'ancien chef d'état-major du Centre du soutien et des acheminements militaires, le CSOA. Sur le banc des prévenus également, le président de la Société internationale Chartering System, ICS. C'est un rapport de la Cour des comptes qui a révélé l'affaire. En 2016, étudiant le coût des opérations extérieures, les magistrats de la rue Cambon s'interrogent sur le surcoût des prestations offertes par la société ICS pour acheminer la logistique militaire. À cette époque, l'armée française a régulièrement recours au très gros porteur Antonov 124, une ressource rare mise en œuvre par deux prestataires extérieurs. Ces appareils sont affrétés soit par la société ICS, soit par Salis, l'agence de soutien de l'OTAN, sauf qu'entre les deux, les factures d'ICS sont bien plus lourdes. Les investigations ont mis en lumière des soupçons de favoritisme pour un surcoût estimé de plus de 16 millions d'euros, avec dans la balance au moins une promesse d'embauche par ICS de l'un des prévenus, une affaire de corruption et de favoritisme présumé qui fait tâche donc alors que chaque euro sera sous-pesé à l'heure de l'élaboration du budget de l'État.
Franck Alexandre. Enfin, en Asie du Sud-Est, cette visite du pape François au Timor oriental, il est arrivé ce matin. Le Timor oriental, tout jeune État, tout petit aussi, près de l'Indonésie, marqué ces derniers mois, ces dernières années, par des scandales de pédocriminalité dans l'Église. Des scandales longtemps dissimulés. Sur place, le pape a appelé les dirigeants du pays à prévenir toute forme d'abus. Le cas le plus emblématique concernant le Timor oriental est celui de Monseigneur Bello, un évêque lauréat du prix Nobel en 1996 pour son rôle dans l'indépendance et qui a été accusé de violences sexuelles sur de jeunes garçons pendant une vingtaine d'années. Le pape a aussi salué dans le pays la nouvelle ère de paix et de liberté, 20 ans après son indépendance de l'Indonésie voisine. C'est l'avant-dernière étape de son voyage dans la région. Après l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental, donc en ce moment, il terminera ce périple à Singapour. Il est 16h10 à Paris, 14h10 en temps universel. À suivre sur RFI, autour de la question avec Caroline Lachowski.